France Culture.
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
On peut rêver toute sa vie à l'idée de s'offrir une île, un petit coin de terre bien à soi. On peut ensuite s'en mordre les doigts. Il n'est pas toujours aisé de vivre sur un bout de terrain difficilement accessible, sans eau, sans électricité. Mais d'un autre côté, il y a les soirées avec les couchers de soleil. D'autres îles, à droite, à gauche, devant, derrière soi, mais suffisamment loin. Même si, évidemment, nous ne sommes pas en plein océan, mais, en l'occurrence, dans le golfe du Morbihan. Dans Le Pays d'ici, le 18 août 1989, Yves Aumont nous faisait partager le rêve atteint et assumé d'un Ilien. On ne peut pas imaginer être mieux qu'ici, malgré les complications.
Le concierge est là pour les accepter, pour les recevoir tout au moins.
Et qu'est-ce qu'il y a comme autre île dans le golfe ?
Vous avez l'île aux moines, la plus importante. Vous avez l'île d'Ar, la deuxième. Vous avez Branneck, vous avez Ilure, vous avez Baléron, l'île de Daniel Darieux, chez Bilaine, qui se trouve dans le fond du golfe, là-bas devant le Longeau, ou Briac, si on veut aller par là-haut.
La plupart des îles, ce sont des îles privées ?
Ah, toutes, oui, oui.
Mais à part les îles, il y a pas mal de rochers, quand même.
Ah, des rochers, il y en a partout, mais ils sont pas tout balisés, hein, loin de là. Loin de là. Et des parcs, tenez, voilà, ici on est encore sur les parcs, là.
Il y en a un près de Port-Navalo qui s'appelle le Faucheur. Pourquoi ça ?
Le Faucheur, ben, c'est le caillou blanc que vous avez à droite de la tourelle, là-bas, vous voyez ? Vous voyez pas un caillou blanc, là-bas ? Eh ben, c'est ça, le Faucheur. Et dans le milieu du Grand, alors, vous avez une autre balise, c'est le Mouton. Et entre le Faucheur et le Mouton, vous avez la chèvre et le chevreau. Et qui ne sont pas balisés. Alors avis aux amateurs. Celui qui veut aller se frotter là-dessus. Hein.
On va pas la mettre sur notre toit ou alors ça marche à pied pour en tracer ta cam.
Tout l'arrache est papier. Parce que tu les attrapes dans les mains comme ça, ils te disent toujours des mains. Tu.
Pays d'ici dans le golfe du Morbihan, quatrième et dernière étape dans la petite mer aux 365 îles de légende. Aujourd'hui, nous allons aborder une île de cet archipel imaginaire où croisent les synagogues. Ça n'est pas une île du large battue par les flots, mais un territoire minuscule à quelques encablures du rivage. Une île pourtant assez grande pour que le rêve s'y engouffre. Un rêve auquel Jean Freste pouvait croire jusqu'au jour où il a acheté l'île aux souris où Alain Resnais est venu tourner Mon oncle d'Amérique. L'île Logoden, une petite parcelle de rêve au cœur du golfe.
Au moment où les vacanciers sont là, mais enfin, et quelquefois il y a des tempêtes terribles. En ce moment, on est sur le quai d'Aradon. Vous voyez à votre droite l'île aux moines, la petite île au Havre, Spirène, l'île d'Ar qui fait tout le fond du paysage. l'île Logoden, là, on ira tout à l'heure, le petit Logoden, et derrière Drenec, une toute petite île, le Mouchot. Alors tout ça, c'est dans un grand cirque, mais là où vous voyez l'île d'Ar, derrière l'île d'Ar, il y a d'autres îles, et on voit la côte, je ne sais pas si vous remarquez tout à fait au fond, la côte qui se trouve très loin derrière les îles. Alors, les grandes îles sont toutes morcelées. L'île d'Ar, par exemple, il y a un village, il y a une église ancienne, il y a un village très, assez important quand même. Beaucoup de vacanciers, des gens qui ont leur maison, et des habitants qui sont là toute l'année. Beaucoup de retraités de la marine, des capitaines, beaucoup.
Vous pouvez me parler du paysage qu'on voit ?
Ben,
on voit quelques bateaux qui sortent, il y a beaucoup de voiliers.
Voilà, il y a à peu près 700 bateaux qui sont au mouillage ici. Ils sont, vous voyez, très très loin, ils vont très 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 loin, il y a des bateaux partout. Et donc, il y a le port de l'île d'Aradon, le port d'Aradon ici, où il y a quelques bateaux, bien sûr. Mais là, on a un mouillage beaucoup plus important parce que c'est un mouillage qui n'est pas aussi coûteux. C'est un peu plus loin du quai d'embarquement. Et les bateaux se sont groupés là et depuis des années et des années. Et c'est un des mouillages du golfe, mais il y en a partout comme ça. Donc il y a des milliers de bateaux dans le golfe.
Jean Fraisse, la lumière du golfe est aussi très belle.
Ah oui, mais ça c'est... Il faut venir dans le golfe pour comprendre, parce que les soirées et les coups de soleil qui sont vus de Logoden, là où des îles qui sont là, sont superbes. Là, vous avez le soleil actuellement là, mais tout à l'heure, quand on sera de l'autre côté, vous verrez la pointe d'Aradon, et on est ensoleillé jusqu'au soir. Dans une île, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a toujours un endroit abrité, ou un endroit ensoleillé. Il suffit de se tourner dans le sens qu'il faut.
Qu'est-ce qui vous a séduit quand vous êtes venu ici pour la première fois ?
Ben, quand je voulais acheter un magasin d'optique, et on m'a dit... Le jour même, allez donc faire un tour à Aradon. Moi, je connaissais pas du tout, ni la mer, ni rien. J'étais fait de longs voyages, mais autrement, je connaissais pas le bord de la mer. On m'a dit, faites un petit tour à Aradon, et mes parents avaient apporté un petit casse-croûte. On s'est assis ici sur le muret. Et quand on a, vous avez vu tout à l'heure en passant, quand on est arrivé derrière les arbres, on a vu le paysage. On ne voit rien. Aradon, on ne voit rien. On ne voit pas la mer, on ne voit rien. Et là, on débouche, ici, d'un seul coup, à travers les arbres, un paysage mais inoubliable, avec des îles assez rapprochées du rivage, et surtout, toute la côte que vous voyez là, qui est quand même très boisée. Il n'y a que des belles propriétés les unes à côté des autres. Et c'est très boisé, c'est là l'intérêt du golfe. Autrement, quand vous êtes en bordure de côte, ben, il y a tellement de vent qu'il ne pousse rien. Il n'y a rien à faire. Tandis qu'ici, vous avez une végétation qui vient jusqu'au ras de la mer. Il y a des tamaris qui sont là, qui protègent cette maison. Vous avez des pins qui tiennent bien, vous avez des cupressus. Vous n'avez pas de feuilles caduques, très peu. Parce que bon, bah, le vent de la mer abîme les feuilles et puis finissent par végéter et disparaître.
Et puis le golfe, ce sont aussi des îles. Et c'est sur une de ces îles que vous allez nous emmener.
Voilà. On va aller tout de suite, on va traverser. Il y a 7 minutes de traversée du port d'Aradon jusque là-bas. Et à l'endroit le plus étroit de l'île jusqu'à la côte, il y a environ 1800 mètres.
Allons-y. S'appelle l'île que vous avez achetée?
L'île du Grand Logoden. Logod en breton veut dire souris. Et là on l'appelle l'île aux souris. Alors il y a le Grand Logoden qui m'appartient, et il y a une autre petite île, toute petite à côté, qui ne m'appartient pas, c'est un autre propriétaire. Et elles sont réunies à basse mer. La côte, on peut aller de l'une à l'autre.
Et votre île est grande?
2 hectares.
donc on avance parmi les voiliers qui sont amarrés. Aujourd'hui, le golfe est calme, la mer est bleue. Il y a quelques moutons dans le ciel et vraiment, c'est un temps formidable pour naviguer.
Oui, surtout à cette heure-ci où le soleil est bas.
Derrière, le soleil se couche.
Il va se coucher derrière la pointe d'Aradon. Et tous les soirs, c'est un spectacle magnifique parce que c'est surtout dans les couleurs orange et rouge. On le verra tout à l'heure puisque j'espère qu'il n'y aura pas de nuages pour le cacher.
Je suis ailleurs, mais où est-ce d'ailleurs? On me trouve parfois là sous les toits. Il est en l'air un monde un peu meilleur. Tu me retrouves parfois là sous les toits. Ton regard est sombre comme un ciel.
Là, on est vraiment tout près de l'île. Alors, comment est-ce qu'on va procéder?
Alors, on va d'abord se mettre sur un corps mort. Ensuite, on va prendre une annexe et aller à la côte en s'échouant sur la côte. Parce qu'il n'y a pas de quai. Toujours le problème du quai, il n'y a pas de quai. Mais on ne tient pas à avoir un quai parce que c'est dans l'annexe que l'on met le plus de choses. Et ça sert de remorque. Et après... quand la remorque est échouée, on débarque les affaires sur place. Il y a un petit motoculteur qui nous attend là-bas de l'autre côté et on va pouvoir monter les affaires dans le motoculteur quand on a un chargement important. On va être obligé de faire ce transfert toujours.
Il est là à quelques mètres, il y a des mouettes et on aperçoit effectivement des arbres et la plage avec les galets.
Tout autour de l'île, il y a une partie de la mer qui se découvre. À basse mer, il y a presque un hectare de découvert. Et les gens viennent à la pêche beaucoup, à la crevette. Il y a des palourdes, il y a des petits coquillages. Maintenant, bon, en ce moment, on n'a pas le droit de pêcher puisque c'est un moment interdit à cause de la pollution qu'il y a eu. Mais déjà, le bord de la côte est beaucoup plus propre que... sur la côte, sur le continent, parce qu'on appelle ça le continent.
Et autour, là maintenant, alors, on est maintenant, auprès de l'île, qu'est-ce qu'on voit?
Alors, vous avez le coucher de soleil derrière Aradon en ce moment, puisque le soleil est très bas. Et vous voyez tous ces mâts, les uns à côté des autres, qui sont serrés. Et la nuit, ou même dans la journée, quand le temps est calme, on entend le petit mouvement gling, 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 des haubans sur le mât. Alors, ils n'ont pas tous la même longueur et le même son. Alors, ça fait une chanson, ça, avec le chant des mouettes, tout ça mélangé. Ça fait un ensemble.
golfe, c'est aussi un endroit pour les oiseaux qui est formidable. Et votre île en particulier, je crois qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui nichent.
Oui, des oiseaux qui nichent et des oiseaux qui viennent se reposer et qui viennent passer, par exemple, dans la période d'hiver. Il y a énormément d'oiseaux, parce que dans le golfe, c'est une véritable réserve. Ils viennent en bordure de côte. On voit beaucoup d'oies, des bernaches, qui sont en bordure de côte et qui restent là au moment où la mer commence à baisser. Elles viennent et elles plongent simplement le bec pour attraper les herbes. Au fond, elles les prennent plutôt au fond que à sec quand la mer est descendue. Alors elles viennent là par quelquefois il y en a 30, quelquefois il y en a 200. Alors c'est joli d'avoir toutes ces oies les unes à côté des autres en bordure de l'île, mais on ne les voit pas. On les voit dans certains endroits en bordure de côte, bien sûr, mais là, elles s'approchent beaucoup. Et on a des tas d'ornes qui viennent nicher. Il y a 3 nids en général tous les ans. Alors, j'avais laissé en friche toute la côté de la carrière du côté de l'île aux Moines pour que les oiseaux puissent venir nicher facilement, parce qu'il ne faut pas les déranger, bien entendu, pendant la nidification. Il y en a un qui a eu la bonne idée de faire son nid sous un bateau qu'on a, un petit bateau de secours qui n'est pas en bon état, qui est retourné. Alors il a trouvé très très bien, il y avait forcément de la laine de verre et des trucs comme ça qui étaient autour de la coque. Il a fait son nid là, c'est un tas d'ornes qui a fait son nid. Un beau jour, on se demandait, parce que ce sont des oiseaux qu'on n'approche pas. Et on passait à pied à côté du bateau, et elle a niché là, elle a couvé là. Donc c'est un peu extraordinaire de voir des oiseaux qui nichent et qui couvent à côté de vous, presque, parce que le passage, quand on fait du bruit, d'habitude, les oiseaux sont... Alors on a soulevé un jour, ce qu'on se demandait, on avait vu quelque chose partir, on a soulevé le bateau, on a trouvé un nid magnifique avec plein de plumes, des gros œufs, il y en avait une vingtaine. Et alors on a essayé de les voir partir, et quand les petits sortent de l'œuf, ils s'en vont tout de suite avec la mère, à l'eau, tout de suite. Il n'y a pas de temps, instantanément. Ils naissent, hop, ils s'en vont avec la mère. Alors, on n'a pas vu le moment, il fallait se trouver là, évidemment. Et puis, elle ne l'a pas donné le signal de départ, certainement, le jour où il y avait du monde. Hein. Et ils vont directement à l'eau, et ils s'en vont dans le courant. Alors ça, c'est incroyable. Et on voit la mère, le père qui est un petit peu plus loin, et on voit des petits points noirs qui s'éloignent dans le courant, mais loin, au lieu d'être au bord de côte. Et elle va mener ses petits sur une autre île ailleurs.
Êtes-vous devenu propriétaire d'une île ?
Un jour, je cherchais un terrain pour bâtir une maison en bordure de la côte, puisque Radon c'était un coin tellement joli. Alors, on a tous envie d'avoir une maison au bord de la côte. Et à ce moment-là, les terrains, il y a une trentaine d'années, 35 ans, les terrains étaient quand même abordables. Maintenant, mètre carré, c'est déjà difficile, surtout en bordure de côte. Et j'étais un jour aux Venettes, et c'était un petit café à l'époque, c'était même pas un hôtel, me dit, vous cherchez un petit coin pour vous mettre. Alors, je connais pas, mais ça doit être facile à trouver. Mais Monsieur Rouleau sort d'ici et il m'a dit, tiens, si vous trouvez quelqu'un pour acheter une île, je vends Logoden. Alors, quand j'ai entendu ça, vous savez, c'est une folie, bien sûr, parce que je savais bien que les îles étaient à des propriétaires. Mais devenir propriétaire d'une île, ça me paraissait un truc formidable, mais impensable, qu'on m'ait proposé comme ça, parce que ça n'était pas en vente. Ça allait être en vente. Alors, j'ai demandé à quelqu'un du village, un petit pêcheur qui est retraité, qui faisait la pêche au casier, Monsieur Loiseau. Et il m'a conduit dans l'île le lendemain, avec une petite plate. Il y avait un peu de vent. Il y avait, avec les avirons, là, il n'y avait pas de moteur ni rien. Alors, il m'a conduit le soir au bord de la côte et je lui ai dit, je ne vais pas être longtemps. Soyez pas longtemps parce qu'il y a un petit coup de vent qui vient. Bon, parce qu'il fallait revenir dans le sens inverse avec le vent d'ouest qui soufflait. Alors, j'ai monté ici, là, juste devant, à peu près à l'endroit où il y a le petit chemin maintenant. J'ai escaladé la côte. Le paysage était si beau. J'ai dit, je ne vais pas plus loin, c'est pas la peine de faire attendre, ça y est, il faut que je l'achète, il n'y a rien à faire. Bon, je n'avais pas un rotin, mais il fallait que ça soit fait. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont compris. Quand j'ai demandé à mon père, qu'est-ce que tu en penses? Ah, il m'a dit, si j'avais ton âge, je serais emballé. C'était toujours mon rêve, et le rêve de tout le monde, ce n'est pas le mien particulièrement. Quand on vous parle d'une île, où vous êtes propriétaire et qu'elle est petite, parce qu'une grande île sert absolument à rien, étant donné qu'on ne sait jamais si on est sur une île ou sur le continent. Mais une île où vous voyez ici la mer d'un côté, de l'autre côté la mer aussi, avec des arbres au milieu, dans la maison quand vous voyez la fenêtre ouverte avec le côté à radon, avec le paysage d'un côté, et l'autre côté Ildar avec le paysage aussi, alors là vous êtes dans une île. Et là, vous comprenez pourquoi on ne peut pas louper une affaire comme ça. Ce n'était pas possible de la louper. Alors, mes parents ont fait donc une... m'ont dit, moi, je t'approuve tout à fait. Il y a bien des parents qui ont dit, mais c'est une folie. Hein, parce que habiter dans une île, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Maintenant, je sais ce que c'est. Hein. Mais je pensais, moi, habiter l'île. Je pensais qu'un jour, je pourrais faire ma maison. Puisqu'il y avait déjà une maison, qu'on pourrait avoir un permis de construire. Pour ça, en effet, j'ai fait ma demande. J'avais droit de raser la maison et de reconstruire une maison basse à la place de l'ancienne. Parce qu'il faut dire que dans les îles, il n'y a pas moyen de construire. C'est interdit de construire. Alors, j'avais fait faire un plan et je m'étais dit, mais ma maison principale, ça sera dans l'île, pourquoi pas?
Vous aviez décidé de vivre ici, de vivre en Robinson?
Ah, de toute façon, oui, de toute façon, j'avais envie de rester à Radon, mais quand on m'a proposé l'île, j'avais plus qu'une idée, c'est d'y rester. Alors, quand j'ai vu, et que je ne connaissais pas la mer, parce que j'avais été en rivière beaucoup, j'avais fait des voyages sur des paquebots, mais jamais j'ai été au bord de la côte, donc je n'étais pas quelqu'un d'ici. Bon, alors, j'ai fait faire une petite plate, et j'ai demandé des conseils à tous les pêcheurs qui étaient autour, tous ceux qui étaient au bord de la côte, qui voulaient me donner des conseils. Et j'ai eu affaire à M. Riguidel, qui a construit une vedette, mais avant de construire cette vedette, j'avais une petite plate. Et je me forçais à venir, parce que je n'étais pas marin du tout, je me forçais à venir le soir, après mon travail. J'avais mis des casiers là, deux casiers qui étaient en bordure de côte, du côté de l'île. Et j'avais mis un poulailler avec quatre ou cinq poules dans un petit appentis qui était en démolition. Et je venais soigner mes poules le soir. Alors l'hiver, c'était la nuit complète. Il fallait prendre le bateau. Il y avait du mauvais temps. Il y a des moments où je me demandais comment j'allais arriver de l'autre côté. Je venais soigner les poules, puisque j'avais ces poules le soir, je venais à la nuit, et elles entendaient le bruit du moteur, elles reconnaissaient très bien le bruit du moteur, et elles venaient dans la nuit, elles prenaient le petit sentier, elles venaient m'accueillir, et alors ce que j'ai pas compris, c'est que ces poules arrivaient à descendre dans l'eau, parce qu'elles savaient que j'apportais du pain, des trucs comme ça, je leur donnais tout de suite. Et à force de leur donner du pain dans l'eau, elles venaient jusqu'au poitrail, comme des canards, mais elles ne flottent pas, elles nagent pas. Mais enfin, elles étaient là. Alors ça m'a toujours étonné de voir des poules dans l'eau de mer. Hein, ça, c'est pas souvent. Elles passaient leur journée à picorer des puces de mer, ce qui leur donne des œufs très rouges. Bon, et c'est excellent, c'est très bien. Elles ont de quoi faire pour, avec toute cette surface. Alors, je venais là le soir et je me suis rendu compte que c'était impossible de faire sa maison principale ici parce qu'il y avait trop de problèmes pour venir le soir, la nuit. Il y avait des tempêtes, il y a eu des moments terribles. Il y a des moments même où je suis resté à l'intérieur de l'île, je n'ai pas pu sortir. Mais j'étais bien content parce que plus j'allais, plus j'aimais cette île et plus je me trouvais que les moments que je passais là-bas valaient 100 fois des grands voyages où, et comme... Moi, je suis toujours déçu quand je vais faire un voyage parce que c'est très joli, c'est tout cela. Mais quand je reviens ici, moi, je trouve ça un pays idéal. D'ailleurs, vous-même, quand vous avez parcouru les îles et le bord de côte, mais surtout les îles, parce que le bord de la côte, c'est pas mal, mais vous avez vu, ce sont des lointains. Ici, vous allez voir les arbres en premier plan, la mer d'un côté, la mer de l'autre.
Là, le paysage est formidable. On découvre Ici, tout à le soleil couchant et c'est l'heure formidable.
Regardez, il y a deux goélands qui se trouvent ici sur un tout petit rocher. Ils sont à contre-jour, on voit juste le soleil et ils sont en ombre, comme une ombre portée. Alors, il y a des mouettes un peu plus loin, il y a des sternes, il y a une foule d'oiseaux.
Puis il y a aussi des arbres.
Oui, les arbres. Alors les arbres, quand je suis arrivé ici, les arbres étaient très peu nombreux, il y avait 5 ou 6. Il y avait ce grand arbre-là, magnifique, qui est derrière, là. Il y avait...
C'est un pin ?
C'est un cupressus, mais qui a poussé très, très ras terre. Parce qu'il y a beaucoup de vent ici. Tous les arbres que vous mettez, ils ont des branches basses. Parce que le vent est tellement, fait tellement de ravages et les force à faire des racines, des gros troncs et des branches basses. Ils s'accrochent au sol. Et ceux qui sont en bordure de côte tiennent presque mieux que ceux qui sont à l'intérieur. Parce que les autres montent, et puis se retrouvent basculés après par une tempête. Alors à chaque fois qu'on peut, on plante. Là, j'ai planté environ 400 pins et cupressus. Et je vais en planter d'autres, maintenant que ça a brûlé de l'autre côté, j'en planterai d'autres.
Parce que l'île a brûlé ?
Oui, récemment, très récemment, il y a un mois, il y a eu 5000 mètres carrés qui ont brûlé. Heureusement, dans une partie qui n'était pas très boisée, c'était surtout de la broussaille. Mais on gardait religieusement ce coin de broussaille pour les oiseaux de mer, pour que les tadornes puissent nicher, pour que les sternes puissent être tranquilles, tout à fait en bordure de mer et sur des rochers, avec de la mousse, des lichens, ils font leur nid, là. Alors, on essayait de garantir toute cette partie-là pour que ça soit, vraiment propriété des oiseaux, d'abord. Malheureusement, quelqu'un a dû mettre le feu, sans doute malencontreusement avec une cigarette ou autre. Bon, il y a 5000 mètres carrés qui ont brûlé. Heureusement que les grands arbres et la maison a été protégés par les pompiers. Ils ont une barge tout à fait spéciale qui est arrivée l'année dernière. Et sans cette protection, ben, il n'y aurait plus d'île maintenant. Vous ne pourriez pas venir là parce que ça serait tout noir partout.
Là, on est tout près de la maison, mais avant tout, on va découvrir un paysage magnifique de l'autre côté. Vous pouvez me décrire effectivement l'autre versant de l'île ?
Ben, l'autre versant de l'île est tout à fait au soleil du matin. Et il y a une toute petite plage minuscule qui fait quelques mètres, mais comme dans la région, il n'y a pas beaucoup de sable, on est bien content d'avoir cette plage. Et elle fait environ 25-30 mètres de long. Il y a une petite crique à pleine mer, c'est magnifique pour se baigner. Il y a beaucoup moins de vent parce qu'elle est à l'abri du vent. Et puis, il y a un paysage magnifique ici parce que vous voyez l'île d'Ar, vous voyez toute cette partie de côte, qui est le continent, bien sûr, Penboc. Ensuite, vous voyez plus loin Séné, les synagogues, là-bas, tout à fait au fond, avec ces petites maisons blanches. Ensuite, vous avez l'île d'Ar qui se trouve derrière, et les Drenek. Il y a plusieurs petites îles, il y a 3 îles. Alors là, cette île appartient à un propriétaire, un professeur de Rennes. Et malheureusement, bon, son mari, en allant à l'île d'Ar faire des courses, il s'est noyé. Bon, ça arrive. Vraiment, quand on a une île, il y a des contraintes qui découragent tout le monde. Donc, sont très rares ceux qui gardent une île. Il y a un dicton qu'on prononce à chaque fois que quelqu'un achète une île. On dit, on est heureux deux fois, le jour où on l'achète et le jour où on la vend. Et on n'a que des ennuis entre les deux.
I've thought of you in thought.
C'était un rêve de construire une maison ici ?
Oui, c'était un rêve, parce que quand j'étais enfant, on m'avait donné un tout petit livre, genre bande dessinée, qu'on fait actuellement, mais enfin, c'était Frimoussé. Alors, Frimoussé dans sa maison. Et je lisais ça, que j'étais gosse, je lisais ça. Je l'ai relu, c'était le seul que je voulais lire, parce que l'histoire de Frimoussé qui construit sa maison avec des tas de choses qu'il a trouvées aussi bien dans les poubelles que partout, et qui a bâti sa maison avec... ça, alors là, c'était le modèle. Et pour moi, l'idée de tous, c'est de construire soi-même sa maison. C'est peut-être une idée qui vient des temps préhistoriques, mais d'avoir sa maison, de la construire. Et un bateau, moi j'aime bien les bateaux pour venir dans l'île, mais je trouve qu'une maison sur du dur et en mer, c'est encore mieux. Alors l'idée de faire moi-même ma maison, je ne pouvais pas me dire, je ne vais pas rebâtir toute cette maison, mais j'avais un tout petit appentis, et je me suis dit, dans tout ce petit appentis qui n'a plus de toit, je vais faire comme Frimoussé, je vais essayer de refaire ma maison tout seul. Que personne vienne, que ce soit le couvreur, n'importe quoi. Alors, j'ai réussi, mais c'était long. Ça a été des années.
Mais comment vous avez apporté les matériaux ?
Les matériaux, c'est-à-dire que le grand secret, justement, c'est de transporter. Parce qu'il n'y a ni moyen de locomotion en dehors d'un bateau. Et ensuite, vous avez une côte raide. Alors, il fallait mettre 2,5 tonnes de gravier pour le sable. Alors, j'ai du sable de mer ici, mais bon, on n'emploie pas le sable de mer pour la construction à l'intérieur. Et puis, la plage, je ne veux pas l'abîmer. Je ne veux pas enlever du sable. Il n'y en a déjà pas assez. Alors, donc, je ne veux pas l'enlever. Alors, je préférais monter. Alors, dans des sacs poubelles, on a mis 20-30 kilos de sable. Et puis, on les a mis dans une remorque. Et puis, on les a chargés dans le petit bateau. On s'est échoué à pleine mer. Et après, on faisait un tas. Et à chaque fois qu'on passait, on portait un sac. On faisait un tas ici. Alors, il y a eu 2,5 tonnes de gravillons et de sable qui sont venus ici pour faire le béton du sol, pour faire les murs, les joints autour des murs. Et alors, j'ai fait bien sûr l'électricité parce que je bricole beaucoup, l'électricité, l'eau, parce que là, le problème de l'eau.
L'électricité, on est sur une île, il n'y a pas de câble.
Ah non, non, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on n'est pas dans les mêmes conditions et qu'il faut trouver les moyens.
L'eau, il n'y a pas d'eau non plus.
Mais non, mais c'est très amusant, il n'y a pas d'eau. Mais il faut en trouver.
Alors, où avez-vous trouvé de l'eau ?
Eh bien, le ciel m'apporte de l'eau. Alors, il y a un système d'eau qui se trouve à l'intérieur, sur les toits, qui tombe dans les gouttières. Il y a ici une petite citerne qui est au-dessus de la cuisine, donc il y a l'évier qui est de l'autre côté. Et on a fonctionné comme ça pendant je ne sais combien d'années en économisant l'eau. Avant, on prenait la bassine, on lavait la salade, on se lavait presque les pieds dedans, et puis après, on allait aux fleurs, parce qu'il faut mettre de savon pour que les fleurs... L'eau dans un été, c'est abominable. Quand il pleut jamais.
Et là, le soir tombe un peu, alors la nuit, comment vous faites ? Vous vous éclairez à la bougie ?
Ah non, mais c'est intéressant. Il n'y a pas d'électricité. Alors on en fait.
Alors on a des groupes électrogènes, un gros qu'on met à l'extérieur et qui se commande maintenant de la maison. Mais tout ça, c'est du luxe, c'est maintenant. Mais au début, ça a été la bougie. Parce qu'on n'en a rien amené ici. Donc le soir, l'intérieur n'était pas arrangé. Et il fallait s'éclairer avec une bougie. On a pris des lampes à pétrole. Après, on a pris le gaz. Et on a monté petit à petit. Et puis, alors maintenant, on a une installation électrique intérieure très, très bien. Alors, en 12 volts pour le courant continu. Et nos batteries sont maintenues en floating par des panneaux solaires qui se trouvent là-haut.
Sur le toit de la
grande maison qui n'est pas réparée.
Bon, là, le soir tombe, on va peut-être contourner la maison, on va faire le tour de la maison et on va aller voir le soleil couchant, on va revenir sur l'autre versant de l'île. Là, il y a plus de vent, déjà. Là, on va s'installer, oui. Juste face au soleil couchant, qui est sur Aradon. Donc.
Alors, vous voyez, là, ici, sur cette petite terrasse qui est devant la maison, elle est exposée au vent d'ouest. Alors, elle est exposée un petit peu au vent d'ouest. Elle n'est pas très agréable quand le vent d'ouest souffle très dur. Mais comme on a toujours deux faces, on va sur l'autre versant et on installe. On a deux tables. On change de table. On change avec la table et les sièges se trouvent de l'autre côté. Et alors, on est à l'abri. Il y a toujours un endroit à l'abri. C'est ça l'avantage de cette position.
Vous vous orientez au gré du vent et du soleil.
Oui, puisque le paysage est aussi beau dans tous les sens. Donc, on n'a pas un côté jardin, un côté court. On a un côté grand jardin, immense, de l'autre côté. Surtout, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de limite. On n'a pas un voisin, on n'a pas de barrière. On ne met pas de piquets avec des fils de fer. On laisse les gens venir en bordure de côte, puisqu'ils sont chez eux sur la côte. Mais on n'a pas l'impression de vouloir se barricader. Même quelquefois, si on a des gens qui ne sont pas très gentils qui viennent, mais on espère que chacun va comprendre qu'on garde cet endroit-là pour eux comme pour nous. On entretient le bord de côte comme si c'était notre jardin. Quand il y a des papiers, des trucs, bon, on met ça dans des poubelles. Mes enfants ont fait le tour l'autre jour, ils ont nettoyé toute la côte. Hein. Mais de plus en plus, je crois que les gens deviennent plus raisonnables. On a affaire à des personnes qui sont... et qui respectent plus.
Et vous venez souvent vous installer comme ça, vous asseoir le soir au soleil couchant?
Et malheureusement, bon, mon commerce m'empêche d'être souvent dans l'île, mais le dimanche et le lundi, mes jours de liberté, l'été, je viens ici le samedi soir, j'arrive, il est très tard. Ça ne plaît pas toujours à la famille, mais il est souvent minuit, à peu près, 11h30, minuit. Et j'amène le ravitaillement. Alors, je prends le motoculteur, je le remonte, mais j'ai pas le temps de m'asseoir à cette heure-là. C'est pas possible. Mais le matin, le petit déjeuner du matin dehors, avec la petite brise fraîche du matin, ça, c'est... Vous n'avez pas ça dans un appartement, vous n'avez pas ça dans un jardin. À chaque fois, vous regardez, vous voyez les bateaux qui sortent, qui rentrent, qui viennent, les pêcheurs qui viennent de la... les pêcheurs qui viennent de la grande pêche, enfin, de la pêche à l'extérieur du golfe et qui rentrent le matin vers 6 heures. Et moi, de mon lit, puisqu'on a des lits un petit peu superposés, de mon lit, entre mes deux pieds, quand la fenêtre est ouverte, je vois les synagogues qui rentrent. Ils viennent apporter leur pêche. Alors, vous savez, c'est un endroit idéal, on peut pas imaginer d'être mieux qu'ici, malgré les complications.
La seule raison d'être d'un être, c'est d'être. C'est-à-dire de maintenir sa structure. C'est de se maintenir en vie. Sans ça, il n'y aurait pas d'être.
C'était magnifique, c'était superbe. Je suis un amoureux du golf parce que j'ai eu les pieds dans la vase. La vase qui sera bon, et j'ai appris à ramener des petites couleurs du golf, de ça ils sont les vernières, et puis les autres la marée.
Quand on parle de golf, on dit
que c'est un Morbihan.
Quand il y aura un moche plat, un vieux drap.
C'est le département breton à porter un golf.
Petite mère, à l'intérieur, ce mariage, et puis Il y aura de l'air, de mon grand-père.
Si vous comptez tous les rochers qui découvrent.
Un spectacle
de
l'absurde.
Ils peuvent se maintenir. Ils sont bien passés.
Vous voyez bien le golf aussi, oui. Vraiment, le golf du Morbihan, qui a son deux lèvres. Il y en a côté du port Navalo et de l'autre côté, il y a l'Ogmariaker. Et à l'intérieur, elles ont avalé une espèce de bouchée de poésie qui s'appelle le golf du Morbihan, à l'intérieur de laquelle il y a tout de même des choses qui subsistent et qui sont absolument indéfinissables. L'île aux moines, par exemple, avec le bois des regrets et le bois des soucis, j'y suis allé, moi, autrefois, lorsque j'étais jeune, avec des petites jeunes filles,
du golfe du Morbihan,
dans le 11e arrondissement.
Un endroit tout à fait considérable,
la ferme de mes parents.
On l'appelait «
du mur des fusillés ».
Qui a accouché ma mère.
L'île Logoden.
J'ai l'impression.
Lorsque le médecin est arrivé.
L'île aux souris.
Si loin maintenant.
50 ans.
Il était trop tard.
C'est là
qu'il y a 1000 ans.
Mon grand-père.
Il y aura bientôt 37 ans.
Ça veut dire qu'on les utilise pour faire autre chose. Tant que l'on n'aura pas diffusé très largement à travers les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent, et tant qu'on n'aura pas dit que jusqu'ici ça a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose qui change.
Alain René est venu tourner Mon oncle d'Amérique. Il est venu d'ailleurs, il habitait, étant petit, à Radon, en face. Et il avait cette île, il voyait cette île de sa maison. Un jour, il a pris un petit bateau et il est venu seul avec à la rame. Et pour lui, ça a été une aventure parce que on avait soin de le laisser à la maison, qu'il ne sorte pas. On avait beaucoup de soin de lui. Et alors, il avait l'idée de revenir sur cette île. Et l'idée de Mon oncle d'Amérique et de tourner une partie du film. Mon oncle d'Amérique à Logoden lui plaisait. Il est venu un jour, il est venu un dimanche. Il nous a demandé s'il pouvait visiter l'île. On lui a fait visiter tous les coins, tout ce qu'on aimait dans l'île. Il a été enchanté surtout de voir que ça n'avait pas tellement changé, à part quelques arbres en plus, beaucoup de végétation, beaucoup de sauvages. Et je crois qu'il était heureux de voir que ça n'avait pas été transformé en jardin public. Et simplement, il m'a demandé de venir tourner. Alors, il est venu tourner. Ils sont restés 2 mois à peu près.
Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il est tourné ici? Parce que c'est à la fois loin et proche?
C'est un souvenir d'enfance, à mon avis. Et il a voulu, certainement, dans son film, il voulait, dans la séquence qui est sur Logoden, à peu près 20 minutes de projection, je crois qu'il a voulu mettre tous ses souvenirs d'enfance, toute la poésie qu'il avait reconnue, qu'il avait ressentie étant enfant. Il a voulu revenir dans des lieux qu'il avait vus autrefois.
Parce qu'enfant, peut-être qu'on doit rêver d'une île.
Tous rêvent d'une île, on rêve tous d'une île. Moi, j'ai une chance inouïe d'avoir eu la possibilité d'avoir, mais qui n'a pas rêvé d'être propriétaire d'une île?
Tu es né de la pluie, de ma folie, assaillie par les vagues, oh, île. Tu surgis de l'oubli, ton paysage naît.
Sortant de ma terre.
Jean Fraisse, quand on est ici, on a l'impression d'avoir vraiment quitté le continent. On a une impression très étrange au bout d'un certain temps. Et lorsque nous étions rencontrés la première fois, vous m'aviez dit qu'il y avait un rocher où vous alliez méditer souvent sur votre île. Une île, ça porte à la méditation ?
Oui. D'ailleurs, quand vous êtes arrivé tout à l'heure, quand vous avez mis les pieds sur l'île, vous aviez une autre impression. Vous n'étiez plus sur le continent. Et on a une impression de repos, de solitude, mais pas une solitude triste, parce qu'il y a du mouvement, il y a les bateaux constamment. On est moins seul, à mon avis, que dans une campagne. Et on n'a pas peur. On est bien. On se repose. C'est-à-dire qu'on a un travail dur à faire, bien sûr, mais les moments qu'on vole au travail, on s'assied, on regarde la côte, on regarde surtout les reflets sur l'eau, parce que dès qu'il y a un petit mouvement, on a des reflets à travers les feuillages, et à travers les arbres, on voit une mer qui est quelquefois bleue, quelquefois verte, et le petit clapot qui est au bord de la côte vous donne... vous êtes dans un rêve perpétuel.
Alors, le golfe du Morbihan, c'est un rêve perpétuel ?
C'est un rêve pour tous ceux qui viennent y habiter. Et je crois qu'on ne s'en va pas facilement du golfe du Morbihan.
Séjour dans la petite mer.
C'était Le Pays d'ici, la mémoire des îles par Yves Aumont, réalisation François Teste, première diffusion sur France Culture le 18 août 1989. Vous pourrez télécharger cette émission durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.